Descartes disait « je pense donc je suis », mais notre existence est-elle validée uniquement par le fait de penser? Est-ce que l'amour de nos parents ne compte pas? Est-ce que ce que je fais ne compte pas? Est-ce que Dieu lui-même ne compte pas? Finalement, qu'est-ce qui peut valider mon existence? Sur quoi est-ce que je peux m'appuyer pour être certain que ma vie ici a du sens? On en parle dans Psy et Spi avec Jean-François Noël, prêtre à Istres, Fosses et Saint-Mitre-les-Remparts et psychanalyste à Aix. Et si vous avez des questions, on les attend à l'adresse suivante dialogue.psyespi@rcf.fr.
Psy et Spi avec le père Jean-François Noël, Dialogue RCF.
Bonjour Jean-François, vaste question du coup qui fait le lien avec notre émission de la semaine dernière sur justement, on parlait des parents qui parfois on peut l'impression d'être un peu défaillant. Finalement, il faut pas en culpabiliser parce qu'on est tous avec cette blessure de l'amour, un petit, on pourrait dire. Ça fait partie de notre condition de parent aussi.
Ah oui, oui. D'ailleurs, nos propres parents étaient incroyablement défaillants aussi et que nous en sommes pleins et que nous avons voulu ne pas l'être, mais nous le sommes quand même parce que c'est dans cette petite brèche que va s'introduire cette question. En fait, qui est en capacité et en compétence de me dire droit dans les yeux ce que tu es, c'est bien que tu le sois. Voilà. Mmh. C'est la question. Je me permets de raconter une petite confidence. Quand j'ai été nommé à Istres, donc je changeais un peu radicalement de pastorale entre la pastorale aixoise et la pastorale plus populaire que j'ai accueillie à Istres. Et un des premiers enterrements que j'ai fait dans un contexte qui était encore assez communiste, parce que cette région est très marquée par le communisme local. Hein, on est venu voir en me disant, voilà, c'est monsieur Intel, un petit quartier de Istres, et comme vous le savez peut-être, ce monsieur est communiste, et donc par respect de ses convictions politiques, on ne mettra pas de crucifix sur son cercueil. Alors que moi, j'arrivais de 20 ans de pastorale aixoise où on n'avait jamais posé la question comme ça. Je leur ai dit, mais écoutez, je comprends très bien, par respect de ses convictions politiques, mais pourquoi, à ce moment-là, passer par l'Église, qui est quand même la question qui nous vient à tous? Et on me répond, cette petite phrase, c'est toujours intéressant, une petite phrase, « Ah, mais ça, il le mérite ». Alors j'ai ri intérieurement et j'ai accueilli et j'ai fait, peut-être que je vais d'ailleurs me faire brûler, mais j'ai fait une cérémonie sans crucifix sur le cercueil et j'ai longuement parlé de Dieu sans qu'il l'entende vraiment. Bon, ça c'est évidemment, après comment retourner la chose, ça c'est les ruses du curé. Il n'empêche que derrière cette question, que j'entends maintenant quasiment tout le temps à toutes les obsèques, c'est « il le mérite ». Dire « qu'est-ce qui est en mesure de dire qu'il est bien que cette personne a existé ?» Il faut bien comprendre que l'existence, c'est très curieux l'existence, parce qu'au fond, je dis ça à mon petit frère qui est devenu grand et vieux maintenant, c'est quand tu n'existais pas. Et dans ce cas-là, je vois dans son regard, terrible, il me dit « mais ce n'est pas possible ». C'est-à-dire, vu ce qu'il était, c'est vrai qu'on ne peut pas l'oublier. Enfin, je ne l'ai pas oublié parce qu'il est arrivé après moi et que c'était d'ailleurs l'occasion de difficultés.
De peur et de jalousie.
De peur et de jalousie, comme on en parlait. Et en fait, au fond, pourquoi il dit ça? Parce qu'il n'est pas possible qu'il n'ait pas été. Une fois qu'on est, il n'y a plus d'effacement.
Mais on peut avoir, effectivement, ne pas envisager de ne pas être. En revanche, on peut ne jamais être certain, ou en tout cas de ne pas l'être de façon évidente, qu'on a bien notre place dans ce monde, qu'on a bien notre place dans cette famille, et que malgré les épreuves, malgré les aléas, malgré les contradictions, notre existence est là.
C'est jamais acquis. Et on va passer son temps à attendre de quelqu'un qui a une véritable autorité au sens étymologique du terme, qui a une véritable autorité, qui me regarde dans mon cœur et dans mes yeux, ou dans mon corps d'ailleurs, parce qu'il y a aussi cette intimité-là. Il est bon que toi, Amaury, ou toi, Jean-François, toi, il est bon que tu existes. Et cette demande de validation, que d'ailleurs saint Paul va appeler la justification, c'est un autre mot théologique, mais c'est à mon avis, si je puis me permettre, c'est le même sens, c'est-à-dire que nous attendons toujours de quelqu'un
et en premier lieu de nos parents.
Et nos parents qui, quand je suis devenu prêtre, ça a été la guerre avec mes parents. Et je me rappelle très bien un jour, mon père me dit dans la voiture, c'était peu de temps avant sa mort, et il me dit, il faut que tu me dises enfin pourquoi t'es prêtre. Je le raconte parce que c'est plutôt drôle. Et je dis, papa, tu veux vraiment le savoir? Mais il avait près de 80 ans à l'époque. Et je lui explique et il s'endort. dans la voiture. Et j'ai continué. J'ai continué.
Mais du coup, il y a cette validation qu'on attend d'une personne, d'une autorité, en tout cas, à laquelle on a envie de laquelle on a envie d'entendre cette parole, et qui va peut-être être une parole qui va confirmer, enfin, je dirais, nous rassurer dans la validation de notre existence. Ou alors, j'allais dire, enfoncer un peu, aiguiser la blessure.
C'est-à-dire que, en fait, c'est ça, à mon avis, le lien religieux qui naît depuis le début, c'est que nous allons prendre conscience que nos parents, les grands-parents, enfin la fratrie, la famille, n'est pas en autorité réelle de nous valider complètement, parce qu'elle n'est pas, elle est toujours intéressée par ce que je peux lui donner comme effectivité. Mmh. C'est parce que cette autorité de validation n'est pas entièrement désintéressée. Au fond, nous avons besoin, et nous l'avons tous vécu sur le plan professionnel ou sur le plan AA, à un moment donné, quand tu me regardes, quand je suis avec toi, et ça peut être dans la vie conjugale comme dans la vie d'amitié, je sens que quelque chose de mon être profond est accueilli et entendu comme tel, sans jugement. Voilà.
Alors, ce n'est pas parce que la famille ne sera jamais ce lieu de la validation parfaite, on pourrait dire, que pour les parents qui peut-être écoutent cette émission, il faut se priver de peut-être poser des paroles valorisantes qui vont quand même donner peut-être pas l'absolu de cette validation, mais en tout cas rassurer l'enfant sur le fait qu'on est
personnes validantes, même si la validation n'a pas, comment dire, elle n'a pas duré. Moi, je peux raconter une autre histoire si on a encore un peu de temps. J'avais accueilli un couple que j'ai marié, qui a eu un premier enfant puis un deuxième enfant qui s'est avéré handicapé. Mm-hmm. Une petite fille qui s'appelle Marie-Laure, et elle est née, voilà, je l'ai accueillie, elle est autiste grave et toujours vivante d'ailleurs, et elle était toute molle. Enfin, j'ai fait le baptême et j'ai pleuré tout le baptême, voilà, parce que j'étais jeune prêtre et pas du tout aguerri à ce genre de... Et des années plus tard, j'ai dit à sa maman, j'ai été nul au baptême d'Anne-Claire. Et elle me dit, absolument, comme ma belle-mère, ce qui n'était pas d'ailleurs ce qui était assez bon. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui vous a mis en route? Et elle m'a dit, il y a un pédopsychiatre à Marseille qui nous a regardé, mon mari et moi, quand j'étais encore enceinte de cette petite fille, et qui m'a dit, vous êtes capable de l'élever. C'est à vous de prendre une décision. C'est lui qui a été beaucoup plus en position pastorale que moi. Il a validé leur capacité d'être.
Psy Espy, avec le père Jean-François Noël, Dialogue RCF.
Parfois, cette capacité, effectivement, comme parent, on peut en douter et on peut attendre une validation extérieure. Parfois, les enfants aussi peuvent douter parce que peut-être qu'ils n'entendent pas suffisamment ces validations extérieures. On fait des erreurs comme parents, vous le disiez, on n'est pas évidemment infaillible. Est-ce qu'on peut demander pardon à ses enfants quand on réalise que peut-être on a... Voilà, une blessure qu'on n'a peut-être pas su suffisamment canaliser et qu'on a pu avoir ces paroles...
Sans y recourir systématiquement, parce qu'après, il peut devenir une forme de facilité. Mais de fait, de reconnaître devant l'enfant une certaine limite de sa capacité ou sa compétence permet à l'enfant de ne pas se sentir responsable ou coupable, de ne pas avoir su attirer cette validation. Et que ça permet à l'enfant... Parce que vous bien comprendre que cette juste défaillance des parents est une brèche qui ouvre à l'extérieur de la famille. Parce qu'une famille complètement close sur elle-même est une famille qui va mourir. Enfin, une famille qui va entretenir une sorte de, comme ça, d'angoisse ou de nausée, et qui font que les gens à la fois se détestent et s'aiment. Pour qu'une famille soit une famille, comme je l'avais dit dans les premières émissions, je crois, il faut qu'elle soit fenêtre, ouverture, pas trop et grande. D'ailleurs, c'est toute la mesure de l'ouverture et de la fenêtre qui fait que je ne suis pas complètement cette autorité-là. Et moi, je vois dans ma propre vie, puisque mes parents n'étaient pas croyants, que je me suis tourné vers Dieu, parce que j'ai senti que lui seul était vraiment celui qui pouvait m'accueillir et me regarder.
Cette question, elle est profondément spirituelle au bout du bout. Est-ce qu'il ne faut pas faire l'expérience de Dieu? Est-ce que finalement, ce n'est pas de Dieu qu'on va entendre cette validation qui va résonner peut-être d'une façon absolue, ou peut-être ce sera qu'au ciel, je ne sais pas si on peut l'entendre sur Terre, mais en tout cas, que notre vie a un sens, qu'elle a été voulue et qu'elle a une raison d'être.
Moi, je crois C'est pour ça que je pense que la naissance du lien religieux, enfin du premier lien comme ça, par rapport à l'absolu de ces éprouvés dont j'avais parlé, ne trouvera leur accord, pas leur réponse, parce que la réponse, elle va évoluer. La validation que j'attends moi à mon âge n'est pas celle qu'on attend quand on a 5 ans. J'ai besoin d'une autre validation. Mais il n'empêche qu'on va aller de validation en validation. Alors le mot est un peu comme ça, commercial, mais j'en trouve pas d'autres pour fonder, comme si j'attendais de quelqu'un qui... Et au fond, je vais me tourner très progressivement vers une figure de plus en plus transcendante qui est la seule autorité, compétence et force pour dire, écoute, Jean-François, avec tous les défauts que tu as, etc., moi, je te reconnais comme ce que tu es. Voilà.
Ce qui ne veut pas dire que cette autorité, que ce soit les parents ou Dieu, aille toujours dans le sens de la personne qui cherche la validation.
Parce Tout à fait.
C'est-à-dire Dieu, parfois, éduque son peuple de façon un peu dure, et les parents, parfois, grondent. Mais c'est une façon aussi de dire à son enfant...
Vous avez raison de dire ça. C'est vrai que, d'ailleurs, le mot validation, on pourrait voir une certaine complaisance à ce que... En fait, c'est pas... La validation, elle est aussi liée à la limite, à la règle dont les parents sont aussi porteurs. Et c'est pour ça que ça ne va pas complètement plaire. Il faut qu'il y ait aussi... c'était la mauvaise lecture qu'on faisait de Dolto, qu'on avait cru qu'il fallait que l'enfant soit un roi. Mais ils ont mal lu Dolto, parce que Dolto, c'était très clair qu'il y avait aussi la castration. Et la castration, pour un psy, ça veut dire effectivement l'application des règles et des limites qui permettent à l'enfant de s'orienter, de structurer ce qu'il est à l'intérieur. Et qu'une validation trop complaisante, c'est mou et c'est un consensus meurtrier. Trier d'ailleurs. Une mère qui serait omniprésente ou un père omni-fasciné par ses enfants finirait. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une sorte de peut-être frustration. D'ailleurs, nous la vivons lorsque nous sommes dans une relation avec quelqu'un. Il y a un test très facile. Si je sors moi-même, j'accueille quelqu'un en pastoral ou dans ma thérapie ou même, etc. Si j'accueille quelqu'un et que je sors content de moi, c'est qu'il n'y a pas eu de place pour lui, et que si je sors frustré, c'est qu'il y a de la place pour lui.
Que j'ai laissé la place à l'autre.
Exactement.
Merci Jean-François pour vos conseils. On vous retrouve la semaine prochaine pour poursuivre cet échange. Une adresse d'ici là pour vous écrire, dialogue.psyespi@rcf.fr, pour que les auditeurs vous posent toutes leurs questions. N'hésitez pas, on attend vos questions. À la semaine prochaine.